Voilà, nous allons continuer notre série d'études de personnages bibliques. Et je vous propose une personne que vous avez certainement déjà entendu parler. C'est Marie de Magdala, ou aussi que vous connaissez sous le nom peut-être de Marie-Madeleine. Hein? Et d'où vient cette expression de « pleurer comme une Madeleine » parce que Marie de Magdala a pleuré pendant un temps. Mais vous savez, l'une des grandes preuves de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile, la plus grande, c'est la résurrection de Christ. Mais après la résurrection de Christ, eh bien, les plus grandes preuves de la puissance de l'Évangile, c'est une vie transformée. Ça, c'est le plus grand miracle. Quand il y a un changement radical de comportement, une réorientation des passions, de changement de caractère, sans affecter la personnalité. Hein. La personnalité, ça, c'est une chose constante. Hein. Chacun l'a à la naissance. Mais le caractère, là, il peut... je sais que des fois, les épouses, elles voudraient que les maris changent plus facilement de caractère. Ça, c'est aussi, ça fait partie de notre souffrance. Mais tout cela, cette transformation, pas pour transformer, là, être transformé n'est pas une fin en soi, c'est être transformé afin d'honorer Christ. Et tout cela montre qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit. Hein, parce que cette transformation ne peut pas se faire sans l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en nous. Même s'il ne fait pas de bruit, mais il est néanmoins présent. Il est vrai que chez certains, la conversion peut paraître plus frappante que chez d'autres, parce qu'elle est plus facile à constater, plus visible. Mais la réalité, c'est que c'est la même œuvre, même si on... C'est tôt dans notre vie, et avant qu'on fasse de trop grosses bêtises, qu'on reçoit le Seigneur, mais la transformation est réelle. Un mort qui vient à la vie, peu importe si c'est un voyou ou si c'est quelqu'un de bien, un mort qui revient à la vie, c'est une chose extraordinaire. Hein? Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et parfois, on commet l'erreur de dire « Ah là, lui, il a un témoignage extraordinaire ». Non, il y en a un qui est plus visible, plus facile à constater. C'est un peu comme ces photos que vous avez certainement vues, par exemple, une personne qui a été passée des années sous la drogue, sous l'influence de la drogue, et puis après on vous montre une photo avant, et puis une photo de maintenant. Et vous dites, waouh, quel dommage, c'est si triste. Mais un peu, on va parler de Marie de Magdala. Et en fait, elle, c'était dans l'autre sens. Hein. C'était le avant qui était terrible, et c'est le nouveau qui glorifie Dieu. Et donc, de cela, j'ai donné ce titre à notre étude ce matin, de démoniaque à disciple. De démoniaque à disciple de Jésus-Christ. Et c'est vraiment cette transformation qui s'est faite. On va le constater, on va voir on ne saura pas trop sur son passé, mais on va voir comment elle a vécu cette délivrance. Tout à l'heure, le frère nous a parlé de la délivrance. Eh bien, Marie de Magdala, c'est un témoignage de délivrance. Elle vient de, on dit Marie de Magdala parce qu'elle vient de la ville de Magdala. Vous savez, si vous avez lu la Bible un petit peu, vous trouvez qu'il y a pas mal de Marie, hein. Il y a plusieurs Marie. Et donc il fallait les distinguer, et donc elle, c'est celle de Magdala, de la ville de Magdala, qui est pas loin de Capernaum, sur le lac de Galilée, et c'est comme ça qu'on la distingue des autres, hein. Donc, mais sinon, apparemment c'était un prénom assez courant pour les jeunes dames, hein, c'était la sœur de Moïse, comme avait un grand honneur pour Moïse, et ben, alors sa sœur, on aimait bien son nom aussi. Mais vous savez, la première chose qu'on voit, c'est qui nous est présentée, c'est cette délivrance, et une délivrance totale. Donc dans Luc chapitre 8, nous allons voir, il va nous parler de son passé. Et Luc chapitre 8 et les premiers versets nous disent, Donc Luc 8, versets 1 à 3, je vais lire, il dit « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. » Nous avons l'habitude d'imaginer toujours Jésus avec sa petite troupe de 12 hommes et qui formait une équipe et il les formait sur le terrain. Hein, il le suivait, il parlait au fur et à mesure des situations apparaissaient. Et c'est un peu comme l'apprenti hein, près de l'artisan hein, qui apprenait. Ben, eux étaient des apprentis et ils apprenaient de Jésus et ils écoutaient tout ce qu'il disait, il posait des questions quand il y avait des questions. Mais on a l'habitude de voir uniquement ces hommes-là. Mais en fait, il y avait une autre petite équipe qui les suivait, qui était avec eux. Et c'est une équipe très utile, discrète. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'est pas fait trop remarquer. Mais néanmoins utile, c'était celle qui était formée par ces femmes. Elles étaient plusieurs, hein, on n'a pas le nombre. On a le nom de 3. Parce que certainement que par la suite, dans l'Église primitive, leur nom était connu. Elles étaient connues, donc on a dit, ben c'est, oui, c'est Marie de Magdala que vous connaissez, c'est Jeanne, et puis c'est aussi Suzanne. Hein, donc, et les autres, on ne les connaît pas. Les Seigneurs le connaissent. Hein, c'est, y a jamais, on ne sert jamais le Seigneur sans qu'il le sache. Hein. Et donc... Elles avaient un ministère particulier, et vous pouvez imaginer, hein, on est tous habitués à la vie, on sait que 12 hommes, eh bien, ils ne savent pas se débrouiller. Hein. Même un homme tout seul, il ne se débrouille pas. Hein. Quand le Seigneur, déjà, Dieu a dit, quand il a créé l'homme, alors qu'il était encore parfait, hein, hein, il a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors, vous savez que ça ne s'est pas amélioré depuis. Et donc, ces femmes étaient là, et elles étaient là, certainement qu'elles allaient de l'avant, elles préparaient les choses, et puis après, je peux imaginer aussi que Jésus s'occupait de femmes ou d'enfants ou de veuves, tout ça, qui guérissait, eh bien, il fallait quelqu'un qui s'occupe d'elles, qui les accompagne, qui les suive, qui les encourage. Et puis il faut vous souvenir de la culture de l'époque aussi, hein, Jésus est respecté, à aucun moment est-ce que quelqu'un l'a accusé de ne pas respecter la culture et ce qui était considéré comme correct, les mœurs de l'époque. Et donc Jésus s'est comporté, il était indispensable qu'il y ait ces femmes-là avec lui, qu'il accompagnait. Et ce n'est pas parce que... il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites sur elles qu'elles n'étaient pas importantes. Hein. C'était comme l'apôtre Paul par la suite, on parlait d'apôtre Paul qui a implanté des églises et tout ça, mais en fait, il y avait toute une équipe. Hein. Et en général, le travail de Dieu se fait comme ça. Il n'y a personne, aucun homme tout seul qui arrive à faire des choses, même pour Dieu, et même s'il est loin de Dieu, ça ne suffit pas. C'est toujours, Dieu voit toujours une équipe, un corps, et on travaille ensemble. Hein, donc, c'est chez les hommes qu'on a un cheval qui tire une charrette remplie de personnes. Mais ce n'est pas comme ça que l'Église fonctionne. Hein, un pasteur qui tire une Église. On est tous ensemble. On porte tous ensemble. Et il emploie toujours l'image d'un corps. Et donc là aussi, ils travaillaient ensemble. C'est comme je pensais à cette... Jésus avec la femme samaritaine, on imagine toujours Jésus tout seul, les hommes sont partis, et puis j'imagine que l'équipe de sœurs était pas loin, et ce qui rendrait la chose tout à fait correcte, et que Jésus pouvait parler personnellement avec la femme samaritaine, mais il y avait d'autres femmes aux environs, c'était les disciples qu'il fallait écarter parce qu'eux ils avaient leurs idées, hein, mais j'imagine, et Dieu faisait ça correctement, et donc souvent nos idées, on a nos petites idées, mais... il y avait cette équipe de femmes qui était indispensable et qui était nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Et puis en plus, vous savez, une particularité, c'est que Jésus avait choisi ses disciples. C'est lui qui les a appelés, il a dit « Venez, suivez-moi ». Tandis que ces femmes, c'est elles qui ont choisi de le suivre et de tout donner. Et il y a un grand honneur là. Après, il nous dit, Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. C'est dit comme ça en passant, mais c'est quand même une chose extraordinaire. Et je ne me demande pas si c'est ce genre, ce genre de cas auquel Jésus faisait référence quand il parlait d'une personne qui a un démon, et quelqu'un vient, chasse le démon, et puis il s'en va, et puis les choses vont mieux, mais comme la maison n'est pas occupée, la maison est vide, et bien ce démon s'en va, il revient avec sept autres. Hein, et si ce n'est pas ce qui était arrivé, cette pauvre dame, qui a été sous l'influence d'un esprit, et peut-être quelqu'un l'a exorcisé et a pu la délivrer pendant un temps, mais comme il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de la maison n'était pas occupée, on n'a pas mis quelque chose pour remplacer ce vide, hein, parce que le vide il dure pas longtemps hein, dans notre monde. Et Jésus a dû venir et chasser sept, ne faisant pas un trop grand cas du numéro sept. Le 7, on le voit partout. Le 7 représente souvent, il est utilisé pour dire qu'ils étaient nombreux, c'était total, c'était l'extrême. Ce qui est important, ce n'est pas combien ils étaient, mais c'est le fait que Jésus les a chassés. Et lui a su mettre autre chose à la place. Et il a changé la vie de cette femme. Non seulement elle était libérée, mais en plus, il a donné un sens à la vie de cette pauvre dame, qui certainement pour tous les autres, eh bien, c'est l'ancienne possédée, là, l'ancienne ceci. Tandis que pour Jésus, c'était une nouvelle disciple, c'était un nouvel enfant de Dieu. Et Jésus voit les choses autrement. Et il est important pour nous aussi de voir comme Jésus voit, hein. On ne doit pas faire toujours ce qui est naturel ou comme les hommes voient. Et vous savez, les hommes vous pardonnent rarement les défauts du passé, tandis que Jésus, il nous voit pas seulement, et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement qu'il me voit comme je suis aujourd'hui, mais il me voit comme ce qu'il veut faire de moi, hein, ce que je ne suis pas encore. Et il croit tellement à son œuvre et à sa capacité de nous transformer, c'est qu'il me voit dans mon état final. Ce que nous avons du mal à voir. Hein, et c'est important de pouvoir voir chez quelqu'un, voir un potentiel. Il n'y est pas, mais je vois qu'il pourra le devenir. Et donc je travaille avec lui, je l'encourage. Cette femme, Marie, a été libérée par Jésus. Et donc, il dit, il m'a libéré, maintenant je le sers. Et servir Jésus, c'est une vie de libération. Hein. En passant, je voudrais quand même faire remarquer qu'il n'y a que Luc qui parle de ça. Donc, Marc aussi, mais Luc, dans sa recherche, hein, vous vous souvenez, le début du chapitre, Luc il avait dit, moi j'ai fait des recherches approfondies pour connaître tous les détails. Et lui, en poussant tous les détails, eh bien, il a su qu'il y avait une équipe de dames qui suivaient aussi. Et il les mentionne, il donne leur nom, il a fait son enquête et il en parle. Donc, c'était pas juste... Et il ajoute un petit détail. Il dit non seulement est-ce que... Mais malheureusement, c'est souvent on pense comme ça, on dit ouais, les dames sont là, c'est pour faire la vaisselle, faire la cuisse popote, et pour faire ceci, cela, pour ces messieurs. Mais regardez, à la fin du verset 3, il dit « Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. » C'est-à-dire, Luc a fait sa recherche, il a dit « Mais en plus, c'est pas que elle, mais c'est elle qui, de leur bien, elle donnait. Elle servait, ça venait d'elle, c'était ce qu'elle voulait faire pour Jésus. » C'était pas juste le devoir, c'était pas parce que Jésus m'a demandé de le faire, Non, c'est moi qui ai voulu faire quelque chose et j'apporte ce que j'ai. Et donc elles étaient là, elles servaient. On parle toujours de Judas qui portait la bourse, hein, c'est lui qui avait la caisse pour les disciples, et qui s'en servait aussi de temps en temps pour lui et ses fins personnelles. Mais les femmes avaient leur trésor aussi. Et c'était le leur, ou bien ce qui leur était confié. Il se peut qu'il y avait des gens qui, tellement contents d'avoir été guéris qu'ils voulaient faire quelque chose et ils ont donné, ils ont confié ça aux dames, ou qu'on leur a apporté des choses, et elles se servaient de ça pour servir. Mais ça venait d'elles. Et vous savez, certainement que le Saint-Esprit était sage de ne pas trop parler de ce qu'elles ont fait. Parce que si on est glorifié par les hommes, on a reçu tout ce qu'on a à recevoir, il n'y a plus rien là-haut. Mais là, il n'a rien dit, c'est pour qu'il puisse leur donner, les glorifier au maximum dans la gloire. Hein, il dit, si vous faites quelque chose pour être vu des hommes, vous l'avez reçu. Donc, ne demandez rien de plus. Mais si vous le faites discrètement pour le Seigneur vous récompensera en temps voulu. Et donc, oui, souvent, nous oublions ces femmes et ce qu'elles ont fait, mais Dieu ne les oubliera pas. Et il les honorera comme on le verra certainement. Marie, il semblerait que ce sera pendant la deuxième année du ministère de Christ que Marie soit venue, qu'elle ait été délivrée, qu'elle a rencontré Jésus. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est restée avec lui parce qu'on la trouve encore à la croix. Au pied de la croix, on la trouve aussi près à la tombe de Jésus. Elle va, une fois qu'elle a décidé de suivre, elle va jusqu'au bout. Hein? C'est pas parce qu'une personne a eu un passé difficile chez les hommes et puis tout ça. Jésus dit, c'est pas ça. C'est ce que tu as décidé de faire pour moi. Et elle, personne ne lui a demandé d'être au pied de la croix. C'est elle qui a voulu être là, c'est elle qui a voulu suivre, c'est elle qui a suivi le corps jusqu'à la tombe, c'est elle qui a voulu embaumer le corps par la suite. Pour elle, c'était « il m'a libéré, et bien en retour, qu'est-ce que je peux faire ?» C'est être disponible, être attaché à lui. Et donc, pendant toute la deuxième moitié du ministère de Christ, eh bien, Marie fait partie de ces femmes qui accompagnent. Hein. Peut-être qu'il y en avait qui ont suivi pendant un temps, puis qui sont partis, d'autres responsabilités, ça dépendait de certainement. Mais là, elle va jusqu'au bout. Et donc, après, on arrive... Matthieu, chapitre 27, il y a un petit quelque chose qui est dit là, concernant ces dames. Matthieu 27, versets 55 et 56. Donc là, on s'approche de la croix, hein, c'est Jérusalem. Et Matthieu 27, verset 56, nous dit « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. » Et verset 56 nous dit « Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, et d'autres dames. » Mais elle dit « Elles ont suivi depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem pour le servir. » Ce n'est pas seulement qu'elles ont fait le trajet, mais elles l'ont fait pour le servir. Et c'était cet engagement, c'est ce cœur, cette attitude... Et en cela, Marie est un modèle pour chacun d'entre nous. Hein, si Dieu a fait une œuvre dans nos cœurs, si Dieu nous a délivrés de nos péchés, délivrés de certaines passions, délivrés de certaines habitudes, certaines fréquentations, eh bien, c'est pour qu'on fasse un bon choix. C'est de le suivre dorénavant. Et donc... Après, on trouve Marie, donc elle est là auprès de la croix. Hein, et vous pouvez imaginer, tout à l'heure, on a parlé de la le dernier repas, le dernier souper de Jésus avant sa crucifixion. Ouais. Mais oui, certainement qu'il n'y avait que les disciples là pendant le repas. Mais le repas, il ne s'est pas fait tout seul. Hein. Et peut-être que les dames étaient déjà passées par là et elles ont mis les choses en place. Ces hommes, vous savez, s'ils n'étaient pas prêts à se laver les pieds, vous pouvez imaginer qu'ils n'ont pas rien fait d'autre. Vous dites ces comportements d'hommes, peut-être. Mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. Mais imaginez qu'elles soient venues, elles aient tout mis en place, et puis elles sont parties. Et vous savez, vous connaissez le récit, Jésus, après le repas, il se lève, il sort, ils vont dans le jardin de Gethsémané. Et c'est là où on vient et se fait l'arrestation de Jésus. On arrive. Et puis les choses vont très vite. Hein, c'est pendant la nuit qu'on le condamne. Le matin, devant Pilate. Et puis, à midi déjà, il est sur une croix. La nouvelle est arrivée jusqu'aux dames. Quelqu'un les a avertis. Et même, je dis en passant, c'est la Marie, mère de Jésus aussi. Parce qu'elle, je ne sais pas, hein, la Bible ne dit rien, donc on ne sait pas où, si elle était retournée, si Joseph était décédé, donc elle est retournée à Bethléem ou quelque chose. Mais en tous les cas, pendant la nuit, elle n'est pas venue de Nazareth. Hein, elle était obligée d'être là dans la région. Et elle est avertie aussi. Et entre la nuit et midi, eh bien, tout le monde est averti, les dames sont devant la croix. Tellement, hein, je dis ça, c'est pas juste pour les détails de l'histoire, mais c'est pour montrer cette attitude que ces femmes avaient. Elles le suivaient, et même si elles n'étaient pas physiquement présentes avec lui, mais elles suivaient, elles étaient attachées et elles étaient au courant de tout. Elles voulaient être au courant de tout, et elles avaient été averties. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Jésus est arrêté. Les disciples dans le jardin disparaissent. Pierre, lui, le renie. Jean, il est en train de, un peu, parce qu'il a de la famille dans le Sanhédrin, donc il est en train de voir un peu ce qui se passe là. Lui, il suit les choses. Lui aussi, ce sera le seul des disciples qui sera près de la croix, hein, pendant un petit moment, en tous les cas. Mais vous savez, tout le monde se trouve là, les femmes sont là devant la croix et elles observent. Marie de Magdala se trouve parmi les femmes qui regardaient la croix, il nous dit dans Matthieu 27. Maintenant, regardons dans Jean chapitre 19, l'évangile de Jean chapitre 19. C'est là où il nous dit que les femmes sont là. Jean chapitre 19, verset 25, il dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Et c'est à ce moment-là, Jésus voyant sa mère, et donc il y a cette parole à Jean et puis à sa mère, mais Marie de Magdala est là. Elle suit Jésus partout. Des moments de gloire, hein, des moments où il fait une multiplication des pains et tous ces gens sont nourris, mais il l'a aussi, elle est là, quand Jésus est sur la croix. Elle est... Vous savez, il y a des gens qui... C'est des bons chrétiens quand tout va bien, et puis quand ça commence à aller de travers, c'est plus comme on avait prévu, comme on voudrait, comme on a demandé, comme on s'imaginait. Quand c'est plus comme ça, et ben alors après, ils commencent à s'éloigner. Marie de Magdala, Marie de Madeleine, c'était une qui a été jusqu'au bout, qui a suivi, qui était fidèle à Jésus jusqu'au bout. Hein, c'est facile de le dire quand tout va bien, c'est autre chose quand c'est dur. Et c'était pas Vous savez, la manière dont ça a été dit à Pierre, hein, ça a dit, ah, toi aussi, hein, tu étais de ces gens-là. Et lui, oh non, 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 moi, je ne connais pas. Vous savez, là. Mais là, Marie de Magdala, avec les autres femmes, elles sont là. Il dit, hein, c'est. Oui, il n'y a pas d'honte. On fait partie. Hein, elles sont restées là. Elles sont restées là. Alors qu'il y a un moment où vous connaissez les détails de l'histoire, il y a le tremblement de terre, tout devient sombre, tout ça. Elles ne bougent pas, ces dames. Et puis, après, il y a un moment où les gens commencent à partir en se frappant la poitrine, disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Et tout le monde s'en va. Mais Marie de Magdala, elle est là. Parce que quand Joseph d'Arimathée et Nicodème, dont on a déjà parlé, viennent pour descendre le corps de la croix, Marie de Magdala est encore là. Et elle va suivre jusqu'à la tombe pour savoir où le corps a été mis. Il fallait vite faire. Donc Jésus est descendu de la croix, il meurt vers 15h de l'après-midi, avant 18h, parce qu'à 18h, c'est à ce moment-là que commençait le prochain jour, donc le sabbat. Donc il fallait que tout soit réglé et puis la tombe fermée avant 18h, il fallait rentrer à la maison. Et puis ils ont attendu tout le sabbat. Et ensuite on voit tôt le matin, donc Jean chapitre 20 verset 1, il nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Elle, dès qu'elle pouvait, dès que le sabbat était terminé, dès que c'est considéré terminé, dès le lever du jour, eh bien, elle va, et elle va pas avec les mains vides, parce que elle va avec de quoi embaumer le corps. Fidèle jusqu'au bout. Ce qui nous dit, et je continue à lire au verset 2, donc il faut que je lise de Matthieu 28 hein, pour vous dire ce qui se passe là. Matthieu 28 et versets 2 à 5. Donc, je vais lire Matthieu 28 et les premiers versets. Il nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. C'est là où il faut quand même essayer de coordonner tous les détails de l'histoire. Comme je comprends et comme nous allons le voir hein, c'est dans Jean chapitre 20, c'est que Marie de Magdala, elle arrive comme ça. Apparemment, ils ont senti le tremblement, ils ont vu la pierre, et puis c'était vide. Et Marie de Magdala n'a pas attendu, a attendu, elle est vite partie pour avertir les disciples. Et pour elle s'imaginait, hein, comme elle s'imaginait que. Et donc là, je reviens à Jean chapitre 20, verset 2, il dit, elle courut vers Simon Pierre. Et vers l'autre disciple que Jésus aimait, donc Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc elle a pas entendu ce que les anges ont dit. Les autres dames sont restées là. Écoutez, imagine, hein, je fais mon petit film là, mais Marie de Magdala qui dit aux autres, écoutez, vous restez là, vous voyez, moi je vais aller avertir les disciples. Et elle est partie sans entendre ce que les anges ont dit. Donc elle est partie avec le message, et ils ont enlevé. Hein, le corps de Christ a été enlevé de la tombe et on ne sait pas où c'est. Donc c'est pour ça que nous voyons là, ici dans le chapitre 20, donc verset 3, il dit Pierre et l'autre disciple sortirent tous deux ensemble et puis alors ils courent jusqu'à la tombe et verset 6, Simon Pierre qui le suivait entra dans le sépulcre, vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête, la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui fut arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. ce qui arrive, c'est qu'ils arrivent pour voir. Mais en fait, ils trouvent que le linge plus les bandes, eh ben, ils sont pliés. Un voleur, il fait pas le ménage, il fait pas le lit. Hein, quand, si jamais vous avez été cambriolé, il ne fait pas le lit hein, quand il s'en va. Là, ce qu'on avait été mis sur le corps de Jésus pour l'embaumer, pour le préparer, eh ben, c'était plié, c'était mis à pas. Et donc, tout de suite, ils ont compris, non, il a pas été volé. Ça, il y a autre chose. Et ils ont dit, non. Et là, ils se sont souvenus. C'est pas qu'ils ont complètement compris, mais ils ont cru que ça, c'était pas... Et eux, ils ont couru. Hein, donc, c'est deux hommes qui ont couru. Magdala, Marie de Magdala, elle, déjà, elle était venue, était repartie. Elle revient, bien sûr, elle arrive en retard. Les disciples sont déjà partis. Elle arrive et elle trouve la tombe vide. Et donc, c'est là où on la voit. Hein, donc, au verset 11... Il nous dit « Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Hein, » c'est là où on la voit. Donc elle revient, les disciples sont partis, eux ils ont compris mais ils sont partis. Elle arrive, tout ce qu'elle a, c'est une tombe vide. Et puis elle est là. Elle dit « Vous savez, c'est qu'elle fait. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas où trouver Jésus. Donc elle revient à l'endroit où elle l'a vu la dernière fois. Hein. La dernière fois qu'elle a vu son corps, c'était là. Donc c'est là qu'elle va attendre. » Et c'est là que Jésus va venir la trouver aussi. Hein. Alors, elle était là, près de la tombe, et elle priait, elle pleurait, je veux dire. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. C'est la première fois qu'elle regarde à l'intérieur, peut-être. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » C'est pas parce qu'ils ne savaient pas, mais bon, c'est une manière d'engager la conversation. Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Vous savez, c'est une de ces situations où la pauvre, elle est en train de pleurer parce qu'elle n'est pas au courant. En fait, il n'y a pas de raison de pleurer. Il est déjà ressuscité. Normalement, elle devrait être en train de se réjouir là. Mais comme elle ne sait pas encore, hein, sur le manque d'information, eh bien, elle est encore prisonnière de sa crainte. Combien de fois, nous aussi, hein, il y a des situations là, on s'est fait des films, hein, on regarde l'expression, on se fait des films, on se fait des idées, tout ça, puis on se remonte, et le cœur, il palpite, et puis toutes sortes de choses. Et puis finalement, ben, il n'y avait rien. Ou c'était, hein, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, je ne le trouve plus, où il est là, il ne répond pas au téléphone. Et puis finalement, il était en train de m'acheter un cadeau. Ah, wow, je le pardonne. Mais c'est le truc, c'est que c'est, des fois, on se fait toute une histoire. Et la pauvre, là, elle est là en train de pleurer. Elle est dans le désespoir total. Où est passé Jésus ? Il n'y a même pas son corps. Il n'y a même pas un monument où je peux venir me recueillir. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Je ne sais pas où c'est. Et en fait, il est ressuscité. Hein, des fois, il y a des choses comme ça. Le Seigneur, c'est un peu... je lisais dernièrement dans mon culte personnel, je lisais dans Daniel, et Daniel, ça fait 21 jours qu'il prie. Et enfin, il y a un ange qui vient et qui dit, le Seigneur a répondu à ta prière. Mais il a dit, mais je suis parti le jour où tu as commencé. Le jour où tu as commencé, la réponse était déjà faite. C'est seulement que j'ai eu de l'opposition pour venir. Et bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais... La question, c'est que des fois, on est là, on est en train de dire, Seigneur, où tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais pas là, mais moi, j'ai prié, tout ça. Et s'il pouvait nous le dire, il dit, mais non, mais écoute, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Tout est bon, hein, tout est en place. Et des fois, c'est nous dans notre pratique. Mais vous savez, Jésus, il n'a pas accusé cette dame. Il n'a pas dit, mais écoute, Magdala, qu'est-ce que Marie, pourquoi tu pleures comme ça ? Tu savais, j'avais dit, qu'est-ce que tu... Non. Vous savez, le Seigneur est autre chose. Il est plus gentil que les hommes. Hein. Et Jésus s'approche et elle est tellement dans ses pensées qu'elle voit quelqu'un qui arrive. Et normalement, même si elle n'a pas levé la tête, même si elle regardait vers le bas, mais rien que de voir ses pieds, elle aurait dû voir les marques des clous. Hein. Mais elle est tellement dans ses pensées. Vous savez, des fois, on est tellement dans quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, ça prend un peu de temps pour vraiment voir clair. Mais il a suffi que Jésus lui dise « Marie ». Et tout d'un coup, vous savez, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Je les connais et elles connaissent ma voix. Et Jésus, il n'avait pas encore apparu à quiconque depuis sa résurrection. Et il vient vers elles. Les disciples, ils sont enfermés dans une chambre quelque part, barricadés. Pierre, il est dans son coin en train de pleurer parce qu'il a renié le Seigneur. Thomas, qui sait où il est, mais lui, il pense que c'est il n'y a plus rien. Et il y a les deux disciples là sur le chemin d'Emmaüs qui sont en train de partir, disent oh, on avait cru qu'il y avait quelque chose, mais finalement il n'y a rien. On est tellement déçus, on avait vraiment pensé qu'il serait là pour libérer. Et, vous savez, c'est. Mais Jésus est venu vers Marie de Magdala. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas de reproche. Il dit Marie. Et elle reconnaît la voix. Et elle répond Rabouni, mon maître. Et apparemment, elle c'est ce, vous pouvez imaginer, hein, vous rencontrez celui que vous croyez qui était mort, et puis d'un coup il est vivant, là, se jette sur lui, il dit écoute, ne me retiens pas, j'ai encore des choses à faire. Et Jésus lui donne une mission, il dit écoute, verset 17, il dit, Jésus dit ne me touche pas, ou ne t'agrippe pas à moi, et car je ne suis pas encore monté vers mon Père, va trouver mes frères. C'est bien qu'il les appelle ses frères, même s'ils ont un peu, ils l'ont un peu lâché. Hein. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il faut peser tous les mots hein, de Jésus. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Il a dit, je monte vers mon Père, mais votre Père aussi. On a le, c'est votre Père aussi. Il leur avait dit, quand vous priez, dites notre Père. Ben oui, mais c'est toujours vrai. Et ça reste vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu est notre Père. Et c'est Marie se retrouve là. Et vous savez, c'est extraordinaire, c'est qu'elle était là en discussion avec des anges, mais ça ne l'a pas rassurée. C'est pas discuter avec des anges, même des anges, c'est pas ça. Il fallait rencontrer le Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner de l'espérance comme un mot du Seigneur. Hein, et donc, n'allons pas, ne nous contentons pas de « je vais voir un tel, je vais voir un tel, je vais prier un tel, ou je vais un saint, n'importe », mais Jésus seul. Hein, c'était ça, sur la montagne de Transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie, des grands hommes dans l'esprit des Juifs. Et Pierre, il a voulu les honorer, et la voix elle dit, non, Jésus seul. Et ils ont été écartés. Et là, il n'y a que Jésus qui peut nous réconforter, nous apporter de l'espérance, et cette femme, elle est transformée, et j'imagine que cette fois-ci, elle a pu courir jusqu'à Jérusalem dire aux disciples, et elle avait un message, et par la suite on entendra que les disciples ont dit, oui, il y avait des femmes qui nous ont dit qu'ils l'ont vu, mais bon, c'est des femmes, hein. Vous savez, les hommes, ils n'ont pas changé, hein, depuis. Je peux le dire parce que j'en suis un, hein. Mais vous savez, Dieu donne cette mission à cette femme, et dit, va, dis-leur que peu importe le comportement, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit Pierre, que ce soit les disciples, que ce soit, il dit, on est frère, on reste frère, c'est pas toi par ton comportement qui peut t'extraire de cette relation. Hein? C'est pas parce que Pierre a renié le Seigneur qu'il n'était plus. Il dit, c'est pas toi qui décides. Moi, j'ai décidé de faire de vous des frères, et nous sommes frères, peu importe. Vous savez, ça nous rassure des fois, parce que des fois, il y a des moments où on s'écarte, on refroidit, il y a des choses qui arrivent. Et puis après, on se dit, je ne sais pas si le Seigneur peut me pardonner quand même. Ce n'était pas que j'ai glissé, hein, c'est vraiment, j'ai fait volontairement, c'est moi qui l'ai fait et tout ça. Je dis, non, il ne peut pas pardonner ça. C'est pas moi qui décide ce qu'il pardonne et ne pardonne pas. Tout ce que je sais, c'est que Jésus a dit, et dit à mes disciples, à mes frères. Hein. Il a pas dit mes serviteurs, il a dit mes frères. Et il dit, et nous avons le même Père. Vous savez, et Jésus, là, il rassemble tout ça, c'est sa pensée, ça a toujours été sa pensée, c'est sa pensée, et c'est à nous d'intégrer sa pensée, et de trouver du réconfort, de l'espérance, du pardon, de la confiance dans sa pensée à lui. Ce qui m'intéresse, c'est pas comment moi je l'imagine, c'est comment lui m'imagine. Et si lui me veut, si lui me désire, si lui me reçoit, ben alors je me laisse recevoir. Et je termine avec cette question. Marie de Magdala est délivrée. Elle a été délivrée. Elle a été délivrée, peu importe, pour elle c'était sept démons, mais pour nous, c'était pas forcément peut-être des démons, mais on a peut-être d'autres passions, on a peut-être d'autres choses qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'avancer, de nous donner pleinement au Seigneur. Et nous avons besoin d'être délivrés parce qu'il est le Sauveur, il est le Seigneur. Et c'est à nous de bien vouloir reconnaître quelle était cette chose qui dominait sur ma vie. Ça peut être une haine parce que ce que j'ai subi et cette amertume finalement me domine et je suis malheureux à cause de cela et ça affecte toute ma vie et j'ai besoin d'être libéré de cette amertume, ce sentiment amer. Il se peut que ce soit une déception quelque part, que ce soit une passion qui m'a fait beaucoup de tort. Il se peut que ce soit une habitude. Puisque vu les personnalités que nous avons, des fois on est porté vers certaines choses, quelqu'un d'autre vers autre chose. Chez les uns, c'est des choses qui sont visibles, et pour les autres, quand c'est la colère, le problème de la personne, c'est la colère, tout le monde le sait. Mais quand c'est certains autres domaines, l'amour de soi, ça se voit moins bien, jusqu'au moment où ça devient trop gros. Des fois, il y a des gens, c'est l'orgueil. Même l'orgueil timide existe. Et donc, c'est à chacun de voir, d'identifier qu'est-ce qui me possède. Et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être délivré de cela afin de pouvoir vivre pour toi. Et d'aller jusqu'au bout. La question, c'est quelle est cette chose qui m'a dominé ? Peut-être qu'elle me domine encore. C'est d'être délivré, de pouvoir dire « j'ai été délivré ». Délivré, pour certains, c'est délivré et puis j'ai plus envie de le faire et tout ça. Pour d'autres, c'est délivré dans le sens que le désir est toujours là, mais j'ai la victoire quotidienne. Je me bats encore, mais je remporte la victoire. Donc je vis comme un libéré, mais le problème est là encore. Donc il faut, l'un n'est pas meilleur que l'autre, la question c'est comment est-ce que je vis ? Et est-ce que je vis cette vie de délivré par Jésus-Christ ? Et est-ce que je la vis et est-ce que je continue de la vivre jusqu'au bout ? Je suis le Seigneur, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et donc, dans ce domaine-là, Marie de Magdala, celle que peut-être les gens méprisaient parce qu'elle avait été possédée, et ceci, cela, et à savoir ce qu'elle a pu faire dans cette partie-là de sa vie, Jésus, il ne voit que, et il parle que de la partie-là. Elle a été délivrée, mais maintenant, regardez-la. Et elle est un modèle pour nous, même pour les hommes. Elle est un modèle. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Et Jésus, dans sa mort, elle était fidèle. Jésus, dans sa résurrection, elle est attachée à lui. Et jusqu'au bout. Dans tout cela, il y a des pensées, peut-être que chacun s'est vu quelque part. Et puis, donc, je vais prendre quelques moments de silence. Et puis, vous pourrez, là où vous vous êtes vu dans tout cela, peut-être vous avez vu quelque chose, où vous êtes identifié, parlez-en au Seigneur. Et dites, Seigneur, écoute, là, il faut que tu m'aides là, dans ce domaine-là. Je suis à peu près à ce niveau-là d'évolution. Voilà où j'en suis. et j'ai besoin de toi pour aller jusqu'au bout. Puis ensuite, je prierai.